Le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir, et avec nous en studio, John Manirakiza, originaire du Burundi, agriculteur aux États-Unis, expert en développement et agroalimentaire bio, qui forme notamment des femmes réfugiées dans la région de Washington. Un grand merci, John, d'être avec nous pour cette émission.
Merci beaucoup pour m'avoir invité.
Alors, vous avez une expérience dans les secteurs publics, privés et à but non lucratif. Vous êtes responsable du développement des affaires chez Oja Express. Vous êtes engagé dans la production alimentaire urbaine, en particulier le développement durable de cultures ethniques et de cultures spéciales dans la région de Washington DC. Vous êtes passionné par la nourriture, en particulier les cultures tropicales. Vous avez travaillé notamment au Burundi, au Swaziland, en Afrique du Sud et au Mozambique dans ce domaine. Votre base actuelle à Washington, votre expérience sociale conjuguée à diverses missions professionnelles vous ont préparé à de nouveaux défis dans le domaine du conseil en développement international, parce que vous êtes également expert en développement socio-économique, agriculture et sécurité alimentaire. Et vous êtes très actif dans l'espace commercial américano-africain. Vous travaillez donc dans l'agroalimentaire et l'agriculture durable. Encore un grand merci d'être ici avec nous. C'est un beau métier, mais l'agriculture, c'est un choix, c'est quelque chose d'inné qui vous a toujours attiré, ou c'est venu par hasard ?
C'est venu comme par hasard, parce que il y a 10 ans, il y a un groupe de réfugiés burundais et congolais qui étaient venus de la Tanzanie. Et il y avait une centaine de ces réfugiés qui étaient installés tout près de chez moi, ici, à Fredericksburg, Virginia. Mm-hmm. Un des défis qui a été à ce moment-là, pour la plupart des femmes, ils n'ont pas pu trouver de travail. Et ils ont dit, bon voilà, si au moins on avait une occupation, un petit jardin, ça nous aiderait au moins à être occupés, mais en même temps, produire certains produits que nous ne trouvons pas sur le marché local. C'est comme ça que j'ai commencé à les encadrer, à trouver l'espace. Et plus tard, j'ai retrouvé l'intérêt parce qu'ils étaient vraiment experts dans ce qu'ils faisaient. Ils ont produit tellement que tout le monde était surpris.
Donc ça veut dire que les femmes, quelles qu'elles soient en Afrique, elles sont toujours plus ou moins intéressées et connaisseuses dans le domaine de l'agriculture.
Mais oui, on peut dire ça, parce que même, disons que si je prends l'exemple personnel, ma mère, quand j'étais petit, j'étais gamin, elle avait un lopin de terre à côté du Bujumbura. Il y avait des manguiers, des fruitiers, mais aussi à l'école primaire, on avait aussi des travaux pratiques agricoles. Mmh. Et puis, on était à côté d'un grand jardin public. Alors, à ce moment-là, on avait quand même cette initiation. Plus tard, alors, quand j'ai rencontré les femmes, j'ai commencé à reprendre l'intérêt. J'ai passé du temps à les encadrer, à la production et aussi à mettre les produits sur le marché. Ça a fait que je devais apprendre.
Parole de femme.
Le président guinéen Alpha Condé a refusé de promulguer le code civil voté au Parlement le 29 décembre 2018. Il a renvoyé le texte au Parlement pour une seconde lecture avant toute promulgation, notamment en raison du rétablissement de la polygamie, officiellement interdite depuis 1968. Lors du vote de ce texte, qui présente des avancées mais un recul au niveau du régime matrimonial, toutes les femmes députées, majoritairement musulmanes et de tous bords politiques, se sont abstenus en guise de protestation contre les articles relevant de la polygamie. Elles ont décidé de former un front commun pour se faire entendre au sein d'un parlement majoritairement masculin, avec de nombreux députés polygames ou qui souhaitent le devenir, a dit à VO Afrique Aissata Dafé, qui est députée UFR, et je les joins donc à Conakry.
Pratiquement tous ceux qui sont avec nous au niveau du parlement, des hommes, des députés, sont des polygames. Et certainement, d'autres qui sont monogames ont peut-être aussi l'intention d'être polygames. Donc on a rencontré beaucoup de difficultés avec l'association de beaucoup d'ONG féminines qui se battaient avec nous, heureusement pour le Forum des femmes parlementaires, qui s'est refusé de voter pour ce code, et en totalité, toutes les femmes parlementaires se sont abstenues et nous saluons que le chef de l'État ait refusé de promulguer le code en son état actuel.
Toutefois, comme le président Alpha Condé l'a renvoyé en seconde lecture, cette fois-ci, dites-moi si je me trompe, le seuil sera relevé à la majorité des deux tiers. Donc ça sera encore plus difficile pour vous.
Pratiquement parce que la majorité aujourd'hui au niveau du Parlement, c'est le parti au pouvoir dirigé par le professeur Alpha Condé. Et j'espère que nous continuerons, nous les femmes, nos plaidoyers, le groupe de les libéraux de Bocas aussi se sont abstenus, et nous espérons que notre plaidoyer va continuer au sein de tous les groupes parlementaires pour ramener le maximum de députés en faveur du statu quo.
Qu'est-ce que vous prévoyez pour arriver à convaincre les autres députés?
Nous allons expliquer pourquoi ils doivent être à notre côté en leur expliquant de respecter le protocole de Maputo et qui s'inscrit réellement dans son article 6 relatif au mariage, il faut donner la primauté à la monogamie. Deuxièmement, il faut voir toutes les conséquences de cette polygamie que nous vivons tout quotidiennement en Guinée. Les drames qui se passent dans les familles polygames. Ensuite, avec la maladie du siècle, un jeune qui se marie, aujourd'hui qui se dit « je suis monogame ». Mais aujourd'hui, à partir du moment où les députés nous ont donné la latitude de nous marier, ce sont nos enfants. Il faut penser à cela. Donc ce sont des arguments vraiment que nous trouvons pour leur expliquer que la polygamie, ça n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. Ils doivent comprendre.
Je connais plusieurs femmes de mon âge qui se sont trouvées dans des situations comme ça, et lorsqu'elles sont arrivées devant l'officier d'état civil, elles m'ont dit elles-mêmes, elles me l'ont confié, elles me disent « je n'ai pas osé dire à mon époux que je ne voulais pas le régime de la polygamie parce que j'ai eu peur qu'il me rejette et qu'il refuse de m'épouser ».
Mais il y a toutes ces craintes. Mais il faut que les femmes aussi soient responsables, qu'elles connaissent leurs droits. Si la loi leur confère cela, c'est tout à fait normal qu'elles le disent. Mais il faut avoir ce courage-là et le dire. Mais tant que nous sommes hésitants, c'est nous qui allons continuer à subir. C'est ce qu'on cherche à faire comprendre aux femmes aussi. Leurs droits, c'est leurs droits.
C'était Aïssa Dafé, députée responsable de la section femmes de l'UFR en Guinée. Elle est membre du Forum des femmes députées et également députée au Parlement de la CDAO. Alors vous avez entendu, John, très rapidement, je voudrais avoir votre point de vue sur la polygamie.
Bon, c'est dommage qu'on commence à penser à des lois comme ça qui sont, je dirais, rétrogrades. Parce que si la loi existante était pour la monogamie, il y avait une raison pourquoi il y avait la monogamie dans une société qui est, bon, disons, majoritairement polygamiste. Au niveau des explications, moi je trouve que avec la démographie galopante en Afrique, la polygamie renforce ce croissement de démographie et économiquement c'est dur pour les enfants qui naissent dans ce genre de mariage. Alors même les droits des femmes c'est déjà bafoué parce que maintenant on vient de prendre leurs droits alors que nous devons normalement nous diriger vers une société équitable.
Merci beaucoup John. Vous avez parlé tout à l'heure de votre maman. Dans quelle mesure les femmes avec qui vous travaillez, peut-être vous conseille-t-elle?
Sur le système de production, elles sont expertes. Les données que nous avons, en Afrique par exemple, ou dans les pays du tiers-monde, 60-80% de la production agricole, c'est fait par les femmes. Donc c'est les femmes qui nourrissent le monde, le tiers-monde.
Et on comprend évidemment là-dedans l'agriculture vivrière.
Exactement.
Surtout, c'est une majorité,
ça. Oui, surtout ça, parce que l'agriculture industrielle n'est pas si développée dans nos pays.
Est-ce qu'il faut la développer, l'agriculture industrielle en Afrique?
Il y a des fois où c'est nécessaire. Il y a certains produits qui demandent une échelle industrielle pour avoir des quantités énormes pour nourrir des grandes populations.
Oui. Ça, ça se comprend. La sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire. Mm-hmm. Mais pour la nutrition, la nourriture de tous les jours, les petites entreprises et les fermes familiales, ça fait le coup.
Les coopératives aussi.
Les coopératives des femmes.
Tous ces systèmes avec des crédits, des banques spéciales pour les femmes, etc. Des prêts à taux d'intérêt très bas. C'est très développé ça en Afrique.
C'est très développé et ça nourrit l'Afrique malgré tous les problèmes que ça confronte. Mais la majorité de l'Afrique, c'est nourri par les petites familles, les femmes. Alors, elles n'ont pas accès à toutes les ressources qu'elles devaient avoir pour produire un peu plus. Pour le moment, le crédit ne leur est pas accessible et les engrais qui sont utilisés industriels, chimiques, coûtent beaucoup et n'ont pas accès à ça. Mais c'est pourquoi nous faisons un plaidoyer pour prendre un peu plus au sérieux l'agroécologie, l'agriculture bio, qui utilise les facteurs locaux pour la culture. Alors, quand il s'agit de comment on a fait ici, on a quand même la technologie ici. On fait des serres, on développe les petits, donc les graines dans les serres, en attendant que la température s'élève. Dans l'agriculture, c'est souvent en fonction de la température du sol.
Parole de femme.
Au Sénégal, les trois femmes candidates à la présidentielle de février 2019 sont parmi les personnes recalées. Il s'agit d'Aïssata Tall Sall, d'Aïda Mbodj et d'Amsatou Sow Sidibé. En matière de parrainage, la loi électorale exige environ 52 000 signatures par candidat, soit au moins 0,8% du corps électoral. La professeure Amsatou Sow Sidibé, que j'ai joint à Dakar, a présenté 15 cartons de signatures, ce qui fait largement le compte selon elle. Elle explique pourquoi son dossier a été rejeté, alors qu'elle peine toujours à réunir les 52 000 dollars de caution et a déposé un recours le 6 janvier, comme de nombreux autres recalés.
J'ai déposé un peu moins de 60 000 signatures. C'est plus que ce qui est demandé par la loi.
Alors pourquoi avez-vous été recalé?
Les sept pages m'ont fait savoir que la clé USB que j'ai déposée était inexploitable. J'ai déposé 15 cartons de signatures de dossiers manuscrits. Donc 15 dossiers, 14 concernant les 14 régions du Sénégal et le dernier carton, c'était la diaspora. C'est un travail de 4 mois de terrain, particulièrement difficile, je dirais même pénible.
Est-ce que vous avez fait un recours?
Mais oui, j'ai envoyé une demande de régularisation. Tous les candidats dont les dossiers ne sont pas passés ont saisi la justice de recours.
Sur les personnes recalées, il y a les trois femmes, les trois seules femmes dont vous qui s'étaient donc présentées comme candidates. Aïda Mbodj, Aïssata Tall Sall et vous-même, Amsatou Sow Sidibé. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Cela m'inspire que durant une élection aujourd'hui au Sénégal, où nous avons une loi sur la parité, où le leadership féminin avait connu une évolution positive, lorsque on peut croire ou penser qu'il y aura une élection sans les femmes, c'est une catastrophe, c'est un recul démocratique indescriptible. Imaginez qu'il y ait dans l'arène politique que des hommes candidats, je m'étais battue contre ça. Voilà pourquoi je suis la première femme candidate à l'élection présidentielle. Je m'étais présentée en 2012 parce que je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas accepter que dans l'arène politique, pour être devenu candidat à l'élection présidentielle, il n'y ait que des hommes. Et c'est le Sénégal qui perd, c'est le peuple qui perd, parce que le leadership féminin, c'est une question de développement, c'est une question d'émergence, c'est une question de droits humains, c'est une question d'organisation de méthodes, c'est une question de paix. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mes dernières forces. C'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, toute ma vie durant. Même pour être agrégée, je me suis battue parce que dans une université où il n'y avait que des hommes, je suis venue, je me suis battue pour être agrégée. Eh bien, je ferai la même chose en matière politique.
C'était Amsatou Sow Sidibé, candidate recalée à la présidentielle sénégalaise de 2019. Elle est professeure de droit et de sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop et elle est à l'origine notamment de la loi sur la parité de 2010. John Maniera Kiza, vous voulez dire un petit mot très rapidement aussi sur les femmes en politique?
C'est important parce qu'elles constituent la majorité du monde, elles devaient être
Pas tout à fait, c'est pas tout à fait vrai. On dit ça depuis des décennies, mais c'est pas tout à fait vrai.
Ah bon?
Non, j'ai vérifié les chiffres récemment. C'est moitié-moitié, disons moitié-moitié.
Moitié-moitié,
c'est juste que les femmes vivent plus longtemps après l'âge de 60 ans.
Okay,
donc
d'accord.
À un âge avancé, on a plus de femmes. Mais en essence, c'est le contraire.
Okay.
En essence, on a plus d'hommes que de femmes. C'est à peu près entre 105 et 107 hommes pour 100 femmes. Mm-hmm. Et on a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui meurent en couche, en accouchant, voilà.
D'accord, mais du point de vue de ce qui se passe au Sénégal, je vois encore que c'est un recul démocratique dans le sens où les femmes, elles sont un facteur incontournable de tout développement, de tout pays. Alors, voir qu'il y a des discriminations comme ça contre les femmes et amener les histoires d'argent, donc le rôle de l'argent, de la représentativité, c'est une aberration.
Et là, c'est 52 000 dollars, mais en RDC, c'est 100 000 dollars.
Ben ouais.
Il y a beaucoup de recalés aussi.
Ben ouais.
Et on ne récupère pas les 100 000 dollars.
Ben ouais.
Et cette dame, elle m'a dit qu'en plus, elle avait tellement dépensé pour récolter toutes ses signatures, tout l'argent qu'elle a dépensé, elle l'a dépensé pour ça, pour aller recueillir les signatures. Donc après, il ne reste plus grand-chose pour la caution. Rien que pour les déplacements, ça demande des moyens, entre autres. Donc, on revient sur notre sujet, la jeunesse. Alors, la jeunesse, aussi bien d'un côté que de l'autre, sur le continent africain, sur le continent américain, les jeunes, on n'a pas le sentiment qu'ils sont vraiment attirés par l'agriculture, mais c'est qu'on ne les attire pas vraiment, hein, c'est pas évident. Est-ce que, selon vous, la jeunesse est plus attirée par l'agriculture industrielle ou l'agriculture artisanale, l'agriculture de petite taille? Parce que ça fait peut-être un petit peu peur. Ces jeunes, ils ont vu leurs parents travailler. C'est quand même quelque chose hein, d'être agriculteur, de travailler, comme on dit, de ses mains du matin jusqu'au soir, sans être aidé par les machines.
Oui, oui, je conviens tout à fait. L'agriculture, c'est pas facile. C'est déjà un secteur qui est complexe. Il y a beaucoup de variables qui rentrent dans la production de l'agriculture. Le climat, s'il ne pleut pas, vous n'avez pas de...
Des risques.
Il y a beaucoup de risques. Mm-hmm. S'il y a trop de pluie, il y a un problème. S'il n'y en a pas, il y a un problème. Le marché, tous ces facteurs-là, c'est vrai que c'est compliqué. Et avec une réputation que ce n'est pas sexy. Donc, tu vois, la jeunesse aujourd'hui, ils aiment les choses faciles, technologiques.
C'est pas assez moderne pour eux. Faut dire qu'elle n'est pas vraiment moderne en Afrique, l'agriculture.
Ouais.
Et puis un petit tracteur de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Ouais.
Parce que bon, travailler avec des systèmes, on va dire, qui datent du Moyen-Âge, hein, même si c'est encore le système aujourd'hui dans beaucoup de pays, on utilisait déjà ce système-là. Et parfois, peut-être qu'on a... Je voudrais en fait qu'on passe un reportage qui va vous intéresser par rapport à ça. Je viens de parler des tracteurs, donc on va passer ce reportage.
Entre parenthèses.
Une nouvelle usine de tracteurs a vu le jour au Cameroun. Elle fait l'assemblage et la mise à disposition des tracteurs à un prix subventionné par l'État, ce qui pourrait présenter des opportunités pour les jeunes souhaitant se lancer dans l'agriculture. Ce projet de 8 ans marque ainsi la mise en fonction du complexe industriel d'Ebolewa. Voici un reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julentap.
900 des 1000 premiers tracteurs sortis de l'usine d'assemblage du complexe industriel de Bolova sont d'ores et déjà entre les mains des producteurs individuels, des groupes d'initiatives communes, des confessions religieuses et certaines collectivités territoriales. Des engins destinés à accroître principalement leur production de riz, de maïs ou encore de manioc.
Avant là, on ne pouvait pas cultiver 10 hectares avec le bœuf de trait, c'était difficile.
Gabriel Dubasso, responsable d'une coopérative de production de riz à Yagoua, dans la région du nord du Cameroun, à près de 1400 km de Yaoundé.
Quand l'État, à travers le Minepart et le Minader, nous ont remis les tracteurs, la première année, nous avons fait cultiver 50 hectares. La deuxième année, nous sommes retrouvés avec 200 hectares. Et la troisième année, nous nous sommes retrouvés avec plus de 400 hectares.
Ces tracteurs ont aussi diversifié la mécanisation agricole au Cameroun, à travers d'autres cultures, la banane plantain, l'ananas, le palmier à huile et le sésame.
Nous avions été accordés 6 tracteurs à 100% pris en charge par l'État.
Jean-Marie Sop, président du conseil d'administration d'un acropole de production d'ananas à Loué, à plus de 226 km de Douala, dans la région du littoral.
C'est l'élément essentiel qui a permis à ce que l'acropole puisse passer de ces petites quantités qu'il faisait et de manière très archaïque à une agriculture qui s'approche vers l'agriculture moderne de deuxième génération.
Dans la région de l'ouest du Cameroun, la valeur ajoutée des tracteurs du complexe industriel de Bolova s'évalue en termes de nouveaux emplois.
Cette façon améliorer l'économie de pratiquement à plus de 60%.
Marie-Yvonne Tagné, comme les directrice d'une société de production et de transformation de riz située à quelques kilomètres de Bafoussam.
Nous avons également augmenté le nombre d'employés parce qu'il fallait les maintenanciers, les ingénieurs de suivi et les tractoristes.
Au stade actuel, l'assemblage et la mise à disposition de tracteurs aux agriculteurs camerounais constituent la phase 1 d'un programme baptisé Périmaïs Manioc.
Ces tracteurs sont subventionnés.
Janvier Oum-Elouma, coordonnateur du programme Périmaïs Manioc.
Qui peut bénéficier des équipements? Il faut être camerounais. Il faudrait prouver au moins que vous avez une trentaine d'hectares. On autorise à ce que sur une période de 3 ans, vous pouvez payer la totalité de votre traite.
Le projet d'assemblage des machines agricoles envisage dans sa deuxième phase de doter chaque chef de région du Cameroun d'un pôle de machines afin de viabiliser les exploitations, désenclaver les bassins de production et mieux préparer les sols cultivables avant l'entrée en jeu des tracteurs. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous avez écouté ce reportage ? John Manirakiza, ça vous intéresse, j'imagine.
Absolument.
C'est vraiment des actions à répéter dans beaucoup de régions en Afrique, et surtout pour la jeunesse, vous-même. Donc, vous faites le pont entre l'Afrique et les États-Unis. C'est quoi votre stratégie à vous pour intéresser, on va dire, les Américains qui sont ici, mais qui sont d'origines africaines, parce que vous travaillez beaucoup avec la communauté. Là, c'est pareil, c'est encore pire. La jeunesse américaine, même si elle vient d'Afrique, elle va encore moins se lancer dans l'agriculture. Donc vous allez faire comment pour les attirer?
C'est un domaine qui est quand même intéressant dans le sens que ça touche surtout la santé, la nutrition, la politique, l'économie, tout ça, ingénierat. Les machines là qu'ils fabriquent au Cameroun, c'est déjà un pas en avant. Et il suffit de alors partager ces machines avec le plus grand nombre de gens. Je suis désolé que ça commence par 30 hectares. Il faut que ça commence par plus bas,
oui.
Parce que la majorité des gens n'ont pas 30 hectares. La nourriture africaine aujourd'hui, c'est sur un demi-hectare, 2 hectares, le maximum.
Mm-hmm.
Alors, s'ils vont aller dans le sens de donner accès à ces gens dont on parle, les femmes, les jeunes, ce serait encore mieux, c'est bon. Donc, la technologie, c'est un. La connaissance du domaine.
Faire des écoles spécialisées, vraiment. Hein.
Ouais, mm-hmm. Ouais. Mettre de l'argent dans la recherche et
développement.
Mm-hmm. Ouais,
recherche et développement.
C'est très important. Et c'est ça qui manque surtout chez nous, dans le domaine de l'agriculture. On met seulement 1% du budget agricole
dans la recherche. C'est très peu.
C'est très peu.
Si on compare aux budgets occidentaux sur ces questions-là, c'est rien du tout.
Et quand on regarde ce qu'on peut appeler les pays avancés comme la Hollande met tout le paquet et c'est le deuxième producteur agricole au niveau mondial. Mais c'est un petit pays, mais ils sont productifs parce qu'ils mettent de l'argent dans la recherche et développement. C'est ça où on peut amener les jeunes dans la recherche.
Et ça, c'est l'autosuffisance en plus aussi, même pour le cas de la Hollande,
n'est-ce pas? Oui,
c'est pas du pétrole, mais c'est à manger.
C'est à manger, oui.
Merci beaucoup, John Manirakiza. Un grand merci à Joselle Morissin, à la production, et bien sûr, un énorme merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. À très bientôt, au revoir.
Arrête.